Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire de celui qu'on a appelé Pierrot le Fou, Pierre Baudin. Pendant toute sa vie, cet homme a berné des dizaines et des dizaines de psychiatres. Ils ont dit, il est fou, et puis non, et puis finalement oui, et puis finalement non. Il n'est pas fou, mais c'est un psychopathe d'une perversité terrible, qui a commencé comme braqueur et finit comme tueur. Voici son histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'était une jolie petite fille blonde, aux cheveux courts de 11 ans, Jeanne-Marie Kevelin. Le vendredi 18 juin 2004, à Rhino, en Alsace, dans la matinée, elle est allée se promener en vélo. Il faisait beau et chaud, le temps idéal. À midi, sa mère a battu le rappel pour le déjeuner.
À table !
Avec 8 enfants, c'est toujours compliqué de rassembler tout le monde.
Et Jeanne-Marie, elle est où ?
Je sais pas, elle est partie faire du vélo, elle n'est pas rentrée.
Si tu veux, je peux essayer d'aller la chercher. Elle doit être du côté du tennis, elle y va toujours.
Le grand frère y est allé, et effectivement, près du tennis, il a trouvé son petit vélo rose, abandonné. Mais il n'a pas trouvé sa sœur. Il l'a appelée.
Jeanne-Marie ! Jeanne-Marie !
Elle n'a pas répondu. Alors à 14h, la mère a averti les gendarmes. Ils ont pris ça très au sérieux tout de suite. Dans d'autres histoires, il arrive que les gendarmes traînent des pieds, pas là. Ils ont envoyé un hélicoptère pour la chercher d'en haut et organisé des battues avec les gens du village pour la chercher d'en bas. Ils ont envoyé des chiens renifler son odeur à partir de l'endroit où on a retrouvé le vélo. Ils sont allés jusqu'au bord de la route et ils se sont arrêtés net. Et tout ça, c'était avant-hier. Et on est toujours sans nouvelles de Jeanne-Marie. Et puis, 3 jours après la disparition de Jeanne-Marie, dans le village d'à côté, des enfants se mettent à raconter une drôle d'histoire.
On a vu un drôle de truc dans la maison des Vanier.
Si ?
Si. Regardez par-dessus la clôture. Ils avaient mis une petite fille dans le coffre d'une voiture. Et il y avait plein de gens autour qui regardaient.
Ils racontent ça à leurs parents, qui s'empressent d'aller le répéter aux gendarmes. Et là, il faut que je vous explique. Les Vanier, c'est pas un nom de famille, hein. Les Vanier, c'est comme ça qu'on appelle les gitans, en Alsace. Ce sont ceux qui font des paniers, quoi, de la vannerie. Autant vous dire qu'ils n'ont pas la cote dans le village. Ni une ni deux. Les gendarmes arrêtent les 6 vanniers qui vivent dans la maison désignée par les enfants. Garde à vue. Les gendarmes les ont-ils secoués un par un ? C'est possible. Toujours est-il qu'assez vite, il y en a un qui craque. Le plus jeune. Dont je dois vous dire qu'il est aussi légèrement débile.
C'est mon grand frère Georges. Il a renversé la petite. Bah, c'était un accident, hein. On était 3 dans la voiture, du coup, on a ramassé le corps et... Bon, on l'a mis dans le coffre.
Ah ! C'était un accident. Et il est où, le corps, maintenant ?
Oh, ben d'abord, on l'a ramené chez nous. On l'a enterré. Après qu'on l'a jeté dans la rivière, et puis... On est allé le reprendre, et puis... On l'a jeté dans le Rhin.
Donc on ne retrouvera pas le corps tout de suite. Alors le frère aîné, Georges, celui qui est censé avoir eu l'accident, qu'est-ce qu'il en dit ? Il est dans le bureau d'à côté.
Bon, tout ça, c'est que de conneries, hein ?
Ce qui voudrait dire que le petit frère aurait inventé toute cette histoire. C'est possible, hein ? Parce que les gendarmes ont examiné à la loupe toutes les voitures du clan. Pas une, aucune, ne porte de marque d'un choc avec un vélo. On en est là, quand le 25 juin, une semaine plus tard, une autre petite fille disparaît, à 50 km de là, à Schirmeck. Julie Charche, 14 ans. Elle aussi part faire du vélo en début d'après-midi avec sa copine Maud. Et quand la fin de l'après-midi arrive, Maud est rentrée, mais pas Julie. Vers 19h, la mère de Julie appelle Maud sur son portable.
« Maud, t'es toujours avec Julie? Tu peux lui dire qu'il est temps qu'elle rentre ?»«
Ah ben non, je suis plus avec elle. On s'est quitté vers 5h. »
La mère refait le chemin en sondant les fossés du regard. Et puis elle prévient les gendarmes, les mêmes que ceux qui enquêtent sur la disparition de Jeanne-Marie. Et tout le quartier se mobilise, et on fouille, on l'appelle.
Julie ! Julie !
On se dit que c'est peut-être une fugue, 14 ans. Mais elle n'a rien emporté, ni papier, ni argent, ni vêtements. Et les semaines passent. Une, deux, trois, quatre, cinq semaines. Jusqu'au 28 juillet, date à laquelle on retrouve le vélo de Julie. Dans la forêt, dans un ruisseau, on ne voit que le guidon qui dépasse. Mais c'est bien son vélo. Ça n'est donc pas une fugue. Ce vélo, on l'a caché là. On l'a enlevé, comme Jeanne-Marie. Et maintenant, les gendarmes font le lien entre les deux histoires. 4 jours après la disparition de Julie, le 29 juin, des enfants se promènent au bord d'un ruisseau à Valve, à 20 km de Rhino.
Ils regardent l'eau. On dirait une poupée, non?
Ça n'est pas une poupée. C'est la pauvre Jeanne-Marie. Et d'entrée, il n'y a aucun doute, hein, ses petites chaussures bateau bleues, et surtout son Bermuda avec une étiquette à son nom. Un mois et demi plus tard, évidemment, le corps est décomposé, mais on voit tout de suite qu'elle a été étranglée, et sans doute aussi violée, avec d'étranges traces de couteau autour de son sexe. Est-ce que ça peut être les Vanniers ? Valve, l'endroit où on a découvert le corps, est à 30 km de l'endroit où le jeune a dit « on s'est débarrassé du cadavre ». Et par ailleurs, on peut penser que ce corps n'est pas là depuis la disparition de Jeanne-Marie. Non, c'est un endroit très passant, on l'aurait vu. Le petit corps de Jeanne-Marie a été déposé là récemment, hier peut-être. Or les Vanniers sont en tôle depuis une semaine. Le gamin du clan a raconté n'importe quoi. C'est une fausse piste, sur laquelle il était évidemment facile de s'engouffrer. Des Vanniers, pensez-vous. Vous connaissez la blague? Si vous ne savez pas pourquoi vous les arrêtez, eux, ils savent toujours. C'est à ce moment-là que les gendarmes font le lien avec une troisième histoire, intervenue entre la disparition de Jeanne-Marie et celle de Julie. Une histoire que jusque-là, ils ne pouvaient pas relier aux autres à cause de l'âge de la victime. Edwige Vallée, 38 ans. On l'a retrouvée nue dans un ruisseau à Indisheim, dans le même coin. Elle a été étranglée. Et surtout, elle avait des blessures au niveau du sexe, comme des coups de couteau. Comme ceux qu'on a pu constater sur le corps de Jeanne-Marie. Les mêmes mutilations barbares. On aurait donc affaire à un même tueur qui tue indifféremment des enfants et des femmes adultes. Un tueur avec une manie très caractéristique des grands pervers. Est-ce que Julie a subi le même sort? Pour l'instant, Julie Charche est introuvable. Mais on a peut-être une piste. Un témoin l'a vu le jour de sa disparition avec son vélo sur la route de Schirmeck. Vous voyez où qu'il y a un hameau, là? Sur la départementale 204. Elle était là, elle parlait avec un type. Il avait une voiture blanche. La marque, vous vous souvenez de la marque?
Ouais, je dirais une escorte. Une Ford Escort blanche.
Une Ford Escort blanche? Eh ben ça alors. Depuis quelque temps, justement, les gendarmes ont à l'œil un type louche qui vient de sortir de prison avec un casier long comme le bras qui a justement une Ford Escort blanche. Pierre Baudin.
Tu vois pas que ça soit lui? Ça pourrait, hein?
Et donc il l'interpelle. Et il l'interroge. Et il n'en tire rien. Et donc il le relâche. En se disant, toi mon coco, à partir de maintenant, on t'a à l'œil. D'autant que près du corps de Jeanne-Marie, on a trouvé les débris d'un clignotant. C'est un clignotant arrière de Ford Escort. Alors dès sa sortie de garde à vue, il le filoche, ce Pierre Baudin, discretos, jusqu'à chez lui, une caravane sur le terrain d'un ferrailleur à Bourgheim, toujours dans le même coin. Et c'est à ce moment-là que tombent les analyses effectuées sur des taches de sang retrouvées sur le vélo de Julie. Le labo a dégagé un ADN qu'il a passé au fichier des empreintes génétiques. C'est lui ! C'est Pierre Baudin ! Connu jusque-là comme braqueur en série, sorti de prison il y a 4 mois à peine. Actuellement en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire. Le lendemain matin, les gendarmes vont l'arrêter et ils le traînent en garde à vue. Mais en garde à vue, Baudin nie.
Oh, je sais pas ce que je fais là. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire.
Pourtant, son ADN a bien été retrouvé sur le vélo de Julie, et Julie a disparu. Ça suffit pour le déférer chez le juge d'instruction, et ça suffit au juge pour le mettre en examen et le coller en prison. Et là, on découvre l'animal, son passé. Pierre Baudin a 57 ans, c'est un vanier, lui aussi. Mais pas un vanier qui tresse des paniers. Un voleur, un braqueur qui a quasiment passé toute sa vie en prison. Et quand il n'était pas en prison, il était en hôpital psychiatrique. Et en feuilletant son dossier, on découvre des expertises psychiatriques réalisées à l'époque, et notamment une réalisée en 1989 après son arrestation pour 16 braquages. Il faut absolument que je vous raconte cet épisode. En 1989, donc, Pierre Baudin est expertisé par le psychiatre Henri Brunner. Il vient le voir à la prison, et il le trouve très agité et incohérent.
« Oh, je suis pas fou, hein ? Je suis pas fou ? Oh, j'ai volé, on m'a dit que j'ai volé, oh. Mais c'était pour m'acheter un hélicoptère. »
Verdict du docteur Brunner, Pierre Baudin est psychotique, possiblement schizophrène. Or, on ne juge pas les psychotiques, la France se fait un honneur de ne pas juger les fous. Et donc, Pierre Baudin est interné. Et une fois hospitalisé, il plonge dans un état régressif complet. Il ne marche plus, il lui faut un fauteuil roulant, il ne peut plus pisser lui-même, ni déféquer. C'est un légume intégral. Tellement légume que le 11 décembre 1992, il se fait la malle par la fenêtre du réfectoire. Il a perné tout le monde. Son état végétatif était un simulacre. Le même jour, Baudin, en cavale, attaque un automobiliste armé d'un pistolet à grenaille. Et il lui balance 2 décharges de grenaille dans le visage. Le lendemain, il braque une banque à Indesheim.
Personne ne bouge!
Il prend un salarié en otage et sous la menace, il se fait remettre 20 000 francs. Et il prend la fuite. Le même jour, il s'achète un fusil de chasse dans une armurerie et 5 boîtes de cartouches. La nuit suivante, les flics le repèrent à Colmar. Une course-poursuite s'engage. Les policiers se mettent à tirer. Baudin réplique au fusil à pompe. Il vise un policier à la tête. Touché ! L'officier s'en sortira par miracle. Et il s'échappe à nouveau. Le lendemain, il nous donne un signe qu'il est aussi un prédateur sexuel. Il enlève une femme, il la viole plusieurs fois et il la relâche. Et juste après, il tombe sur un barrage. Il le force. Nouvelle fusillade. et Baudin parvient à s'enfuir dans un bois. Les gendarmes pénètrent dans le bois par dizaines, avec des chiens, des motos et au-dessus un hélicoptère. Et ils le coincent. Fin de la cavale. Vous voyez à quel genre de zozo nous avons affaire? Alors, il est fou ou pas? Il est psychotique, schizophrène ou pas? Mérite-t-il le surnom de Pierrot le Fou? Dans les années qui suivent, il y a débat. L'une des stars de l'expertise psychiatrique de l'époque, le docteur Bornstein, le rencontre juste après ses 3 jours de cavale. Alors est-il psychotique, docteur? Eh bien non. D'après Bornstein, non. Il est psychopathe, mais rien de plus. C'est un déséquilibré mental, mais ça n'entre pas dans le champ des troubles psychiatriques qui dispensent de la cour d'assises. On peut le juger. Et donc on le juge. En 1995, Pierre Baudin comparaît devant la cour d'assises de Colmar pour ses hold-up. Il arrive tout tremblant dans le box des accusés, la bouche ouverte, la démarche branlante. Quand on lui pose des questions, il dit n'importe quoi.
« Faut qu'on me rende la mobilette comme vous voulez, hein !»
Les experts psychiatres pensent qu'il simule. On raconte une scène étonnante. Un jour, il a mangé ses excréments. Il serait donc prêt à tout pour montrer qu'il est fou. Et à la fin, il prend 30 ans pour les 16 hold-up. Mais après miracle, sur une faute de procédure, il obtient la cassation. Nouveau procès en 1996 à Strasbourg. Et là, changement total d'attitude. Il est frais comme un gardon, il ne fait plus semblant d'être fou, il s'excuse même, c'est un autre homme. Et du coup, il prend un peu moins que la première fois. 28 ans de prison. Donc, en principe, on en est débarrassé jusqu'en 2012. Je dis en principe parce que vous savez, vous, que sans doute, il a replongé en 2004. Julie, Jeanne-Marie, Edwige. Comment s'est-il trouvé dehors en 2004, 8 ans avant l'échéance? Eh bien d'abord, son avocat a fait du zèle. Il a repéré une toute petite faute de procédure qui a ramené la peine de 28 ans à 20 ans. Et puis après, ma foi, Baudin s'est plutôt bien comporté en prison. Il a donc bénéficié de remises de peine. 20 ans sont devenus 17 ans. Et juste après, une grâce présidentielle, générale et habituelle, traditionnelle, a ramené la peine de 17 à 14 ans. Et à la fin, en 2004, dernier coup de pouce, on lui a fait encore un petit cadeau, une année. Et on l'a libéré au bout de 13 ans. 13 ans au lieu de 28. Voilà. Voilà qui est et d'où vient le zigoto qui a sans doute tué, dès sa sortie de prison, en 2004. Jeanne-Marie, Edwige et Julie. On retrouve le corps de Julie Charche le 3 juillet 2004 dans un petit ruisseau. Il porte les mêmes blessures, les mêmes mutilations au niveau du sexe que les deux autres. C'est très troublant ça, ce petit rituel macabre. Et ça n'est pas le seul point entre les 3 affaires. Vous noterez que les 3 corps ont été retrouvés dans l'eau. Mais il y a encore plus troublant. Prenez une carte du coin et collez une punaise sur chaque endroit où on a retrouvé les corps. 1, 2, 3 punaises. Eh bien, vous noterez que les lieux de découverte des corps sont à égale distance de la caravane de Pierre Baudin. Dingo! Dingo! On finit par trouver du sang de Jeanne-Marie dans sa Ford Escort et aussi un tout petit poil qui appartient à Edwige. Et comme en fouillant le terrain où il vivait, on tombe sur des couteaux tachés de sang. Alors il n'y a plus de doute. Pierre Baudin, quelques semaines après sa sortie de prison, a tué 3 fois en une semaine. Les psychiatres n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, on va donc le juger pour les 3 meurtres de 2004. Son procès s'ouvre le 11 avril 2007 devant la cour d'assises de Strasbourg. Et dans le box, il n'est pas seul, le juge d'instruction n'est pas arrivé à dédouaner totalement les vanniers de Rino dans le meurtre de Jeanne-Marie. Alors il a renvoyé tout le monde devant la cour d'assises, avec Baudin. 16 personnes. Quelle galère. Vous vous rendez compte, à chaque fois, il faut les interroger un par un. Et comme ils sont tous rongés par l'alcool et tous à moitié neuneux, ça prend un temps fou.
Oh, moi, je l'ai jamais vu, ce Baudin, là. Moi, je l'ai jamais vu, et la petite Jeanne-Marie, là. Non plus, hein.
On perd notre temps. Il n'y était pas. Baudin était seul. Alors concentrons-nous sur lui. Lui qui est assis là, dans le box, avec ses cheveux longs filasses, et qui met un jour une chemise blanche, et le lendemain une rose, et le surlendemain à nouveau la blanche. Il n'a que 2 chemises. D'entrée, il nie. Il remet au président un document d'une 10aine de pages intitulé « 30 alibis ». C'est la preuve, pense-t-il, qu'il n'a commis aucun des meurtres. Et c'est assez vain, hein, parce que dans le dossier, on a des preuves ADN, en veux-tu, en voilà. Et on a son téléphone qui atteste que le jour de l'enlèvement de Jeanne-Marie, il était à Rino. Il perd son temps. Mais jour après jour, il ne lâche rien. Il refuse de détailler son emploi du temps. Il n'a commis aucun des crimes. C'est un complot. C'est une machination.
Ouais, c'est le gendarme là qu'ils ont mis mon ADN sur le vélo de la petite Julie là. C'est le gendarme qui a fait ça.
Et on en vient bien sûr à la question, l'éternelle question. Les experts psychiatres se relaient à la barre. Est-il fou? Ils ne sont toujours pas d'accord. Mais ce qui ressort en gros, c'est que c'est un manipulateur qui joue au fou, sans être fou. À la fin, l'avocat général se lève.
Je vous demande de condamner Baudin à une peine de perpétuité incompressible, de manière à ce qu'il ne bénéficie d'aucun aménagement de peine.
L'avocat de Baudin, enfermé par les dénégations de son client, ne peut rien plaider d'autre que le complot de la gendarmerie. C'est assez vain. Le délibéré dure 24 heures, ça c'est très rare. Et la cour condamne Pierre Baudin à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 30 ans. C'est le max. Il fait appel. Un nouveau procès est organisé en septembre 2008 à Colmar. Il est toujours dans le déni. Et sa condamnation à la perpétuité dite réelle est confirmée. À ce moment-là, il a 61 ans. Il part pour 30 ans minimum. Il mourra en prison.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.